Grand Angle.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, votre grand angle hebdo, l'actualité de ces 7 derniers jours. Le sommaire, c'était dimanche soir dernier le résultat du second tour des élections municipales. Décryptage dans votre grand angle hebdo avec le chroniqueur politique Henri Vernet. Cette semaine marquée par la mort d'une grande figure de la vie politique française, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. Le témoignage de l'un de ses proches, l'ancien ministre de l'Intérieur, ex-député socialiste Bruno Leroux, dans votre édition. De l'apaisement entre l'Algérie et la France, nous y reviendrons avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, Michel Bizac. C'était lundi dernier à l'Institut du Monde Arabe, l'inauguration de l'exposition Biblos par le président de la République. Dans votre grand angle hebdo, le maire de cette ville libanaise. L'ensemble des partis politiques a revendiqué la victoire dimanche dernier après le second tour des élections municipales. Dans la réalité, il n'y a ni grand gagnant ni grand perdant, mais un retour du clivage droite-gauche, comme le souligne le chroniqueur politique, le journaliste et écrivain Henri Vernet.
On peut dire qu'il est vraiment réapparu et finalement, on a ce clivage, comme vous le dites, mais entre la gauche globalement, disons, de gouvernement, hein, la gauche social-démocrate, et la droite assez classique, c'est-à-dire la droite républicaine avec justement les LR. Alors pourquoi ? Parce qu'à gauche, on voit bien que dans vous savez, là où il y a eu toutes ces alliances assez spectaculaires entre LFI et PS, donc alliance qui avait été décriée, dénoncée à l'avance pendant des semaines par Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, et qui finalement se sont multipliées, je crois une dizaine de villes au total pendant l'entre-deux-tours, eh bien, dans la plupart du temps, elles ont totalement été balayées de manière assez spectaculaire, notamment comme à Toulouse, hein, alors qu'elle concernait, cette alliance, elle avait été faite non pas pour barrer la route à l'extrême droite, mais pour barrer la route à un maire centriste sortant, Jean-Luc Moudin, et ben ça n'a pas marché. Il y a bien des endroits comme à Brest, comme à Clermont-Ferrand.
Il aura été une très grande figure de la vie politique française. Lionel Jospin est décédé cette semaine à l'âge de 88 ans. Lionel Jospin qui aura été Premier ministre de 1997 à 2002 sous la présidence de Jacques Chirac après la dissolution de l'Assemblée nationale et la victoire de la gauche. Lionel Jospin, c'est l'homme des 35 heures, du PACS et de nombreuses autres réformes. L'un de ses très proches, l'ex-ministre de l'Intérieur et ex-député socialiste Bruno Leroux, revient sur les coulisses de sa défaite à la présidentielle le 21 avril 2002 quand Jean-Marie Le Pen est arrivé devant lui au premier tour. Bruno Leroux qui était au côté de Lionel Jospin quand il a annoncé son retrait de la vie politique française.
J'étais le soir où il a fait cette déclaration dans l'atelier, c'est-à-dire l'endroit qui nous servait de quartier général dans cette campagne. J'ai été abasourdi parce qu'il en avait peut-être parlé à Jean Glavany, son directeur de campagne, mais nous ne nous attendions pas à cette annonce. Et aujourd'hui, quelques décennies plus tard, je pense qu'il y a eu un véritable rendez-vous manqué avec les Français. Je pense que tout le monde se doutait, tout le monde pensait que la gauche allait arriver au second tour avec un gouvernement qui, c'est tout à fait magique quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui. Un gouvernement qui, au bout de 5 ans, était toujours populaire, un Premier ministre qui était populaire et une campagne que nous avons ratée, une campagne où nous n'avons pas su rassembler au premier tour, une campagne où nous avons peut-être été un peu trop sûrs de nous et qui a amené à cette qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour. Et je pense que Lionel Jospin, président de la République, aurait pu. Ça aurait donné quelque chose de particulier dans notre pays. La façon dont il voit l'action publique, l'éthique qu'il avait, aurait très certainement amené des choses nouvelles. Et donc, oui, derrière, quand il s'est retiré, il continuait à discuter avec ceux qui continuaient à faire de la politique. Et je me souviens, pour ma part, comme président du groupe, d'avoir eu toujours bonheur à le rencontrer pour discuter de situations politiques particulières. Parce que quand il commençait à parler, quand il commençait à donner des conseils, on se disait que c'était jamais fortuit, c'était jamais à côté de la plaque, c'était jamais pour lui, c'était tout le temps pour l'action politique et pour la gauche.
L'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Du mieux dans les relations difficiles entre la France et l'Algérie. La reprise d'un dialogue exigeant sur le plan migratoire et sécuritaire avec l'Algérie produit de premiers résultats. Des mots du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot s'était entretenu le 15 mars pour la première fois depuis des mois et à son initiative avec son homologue algérien. Il s'agissait de poursuivre la relance de la coopération bilatérale amorcée en février. Pour Michel Bizac, président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, la reprise d'un dialogue sur le plan migratoire a bien entendu une incidence sur les relations commerciales entre la France et l'Algérie.
Elles ont été pénalisées par des tensions, je dirais, plus que migratoires, politiques. Parce qu'avant d'être migratoires, elles sont d'abord politiques. Aujourd'hui, on a eu des attitudes en France qui étaient extrêmement nocives pour la relation. On a eu certains ministres de l'Intérieur qui avaient fait de l'Algérie un sujet toxique.
Vous parliez de Bruno Retailleau, sans le nommer. La nomination de Laurent Nunez, vous le ressentez, a un effet concret, a un impact également sur l'économie entre la France et l'Algérie, sachant que Laurent Nunez est ministre de l'Intérieur.
Alors, il est ministre de l'Intérieur, mais il est surtout assez modéré dans ses propos. D'abord, c'est un ancien d'Algérie, puisque je crois qu'il est né à Oran, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il est apprécié ici et ce n'est pas pour rien qu'il a été reçu. Et ce n'est pas pour rien que c'est le premier qui est revenu ici, parce qu'il a un dialogue apaisé. Et donc, c'est important. Dialogue apaisé, d'ailleurs, qu'avait gardé M. Barrot. Donc, aujourd'hui, c'est très important que tout ça reprend. Mais il est important parce que, je vais peut-être passer du coq à l'âne, mais aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de notre voisin de l'autre côté de la Méditerranée. Quand vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient, il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir cette attitude avec un voisin qui fournit et qui nous fournit le gaz. N'oublions pas que l'Algérie est le premier fournisseur de la France en matière de gaz, notamment avec ses contrats avec Engie et Total.
Justement, nous allons revenir sur cette situation géopolitique au Moyen-Orient, l'impact que cela peut avoir. Je souligne que Laurent Nunez est né à Bourges, mais ses ancêtres ont longtemps vécu dans la région d'Oran en Algérie. Justement, cette guerre au Moyen-Orient, les incidences sur le prix du pétrole, est-ce que cela peut accélérer un rapprochement économique entre Paris et Alger ?
Il suffit de regarder l'agenda politique de l'Algérie pour le mois d'avril. En ce moment même, vous avez Georgia Meloni qui est ici. Vous aurez, je pense, la semaine prochaine, le Premier ministre espagnol. Puis, je crois que le président de la République, M. Tebboune, se rend en Allemagne. Puis, vous avez la visite du pape du 13 au 15. Bientôt, prochainement, je l'espère, une visite du MEDEF à Alger. Je dois dire que l'Algérie est revenue au centre des préoccupations de tous, et notamment de l'Europe. Parce que c'est évident que en possédant une partie du gaz qui arrive en Europe, l'Algérie, maintenant, redevient, et ce qu'il a toujours été, et ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un pays important pour l'Europe.
Le président de la Chambre de commerce franco-algérienne, Michel Bizac. C'était lundi dernier, le chef de l'État Emmanuel Macron a inauguré l'exposition Byblos, cité millénaire du Liban, une inauguration à l'Institut du monde arabe, un déplacement dans un contexte marqué par de fortes tensions au Proche et Moyen-Orient. Cette exposition réunit plus de 400 œuvres majeures issues du patrimoine libanais. Nous avons rencontré le maire de la ville de Byblos, Joseph Chami.
Je suis très ému de me retrouver ici, de voir l'attention avec laquelle l'Institut du monde arabe et le gouvernement français attachent à cette exposition, à tel point que le président de la République est venu personnellement pour le vernissage. Donc c'est un grand honneur pour nous, citoyens de Byblos, d'être présents ici pour en fait exporter notre patrimoine, notre histoire, notre archéologie, notre culture à travers le monde.
Cette exposition, dans cette période plus que troublée, monsieur le maire, avec le Liban qui s'est vu malgré lui entraîné dans cette guerre au Moyen-Orient, elle a une valeur particulière pour vous.
Tout à fait. Le Liban a toujours survécu à des guerres, à des défis majeurs. C'est notre résistance culturelle, c'est notre résilience. C'est à travers ça que nous nous trouvons ici en France maintenant pour exposer notre patrimoine.
Le maire de Byblos au Liban, Joseph Chami, fin de votre grand angle hebdo. Un très grand merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux de Radio Orient, également sur son site internet radioorient.com. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.